Hélène Denis.
Ce matin, je suis en compagnie de André Lacombe qui est en studio.
Bonjour
Petit
Hélène.
Petit farceur, bonjour André. Alors, je suis contente de vous retrouver. Chronique voyage aujourd'hui.
Absolument. En Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent,
ah,
je reviens de mon périple, ben, fin juillet. Là,
ouais.
Mais... Alors, je vais vous faire découvrir quelques coins magnifiques et quelques bonnes tables aussi.
Ah. Bien, on est content. On va prendre des notes pour peut-être l'année prochaine, malgré que la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, c'est beau à longueur d'année.
Absolument.
Et il y a moins de touristes aussi, j'imagine, à l'automne, puis surtout l'hiver et au printemps.
Oui, c'est une belle période.
Bon, puis à tantôt, André, merci. Et puis devant moi, c'est Mathieu Tessier avec sa boîte de mouchoirs.
Ahoy!
Atchoum!
Ben oui, les allergies ce matin.
Ben oui, les allergies à quoi?
Ah,
pas à moi, j'espère.
Non, j'ai commencé à éternuer avant d'arriver. Non, habituellement, j'ai le rhume des foins. Ça faisait des années que je ne l'ai pas eu.
Oui. Ben, là, ça revient.
Ben oui, comme ça.
Ah, Mathieu, lui, ses aventures. Il nous surprend toujours.
À toutes les semaines.
Oui, bon courage, Mathieu. Au programme du jour, les correspondances des semaines, 23e édition, on en parlera avec la nouvelle directrice de l'événement. Elle s'appelle Julie Collin. Anne-Marie Aubin a lu « La part de l'océan » de Dominique Fortier et elle va nous faire part de ses impressions. Et la chronique voyage aujourd'hui avec André Lacombe, comme on en a parlé il y a quelques secondes. Avant les unes, voici Caroline Savoie.
C'était Caroline Savoie et sa chanson Encore.
À la une de la presse plus, entretien des routes, Montréal manque de vision alors que la vérificatrice générale juge sévèrement la gestion du réseau routier par la ville. Des citoyens vivent dans leur chair les déficiences d'entretien de la chaussée. On en a un exemple. Je suis une miraculée. Charles-Éric Blais-Poulain qui a rencontré cette miraculée. Traumatisme crânien sévère avec hémorragie. C'est le diagnostic qu'a reçu une Montréalaise après avoir fait un vol plané par-dessus son vélo, dont une roue était restée coincée dans un nid de poule. Depuis qu'elle est sortie d'un coma artificiel au début du mois d'août, la Montréalaise Mélanie Guindon répète deux messages. Portez un casque à vélo et méfiez-vous de la chaussée. Pour cette artiste, la rue est généralement un lieu où elle gagne sa vie. C'est aussi là où elle a failli la perdre le 18 juillet dernier. La résidente d'Hochelaga roulait vers Verdun lorsque la roue avant de son vélo électrique est restée coincée dans l'un des nombreux nids de poule de la rue Guy. À la frontière de Ville-Marie et du Sud-Ouest, la cycliste a fait un vol plané par-dessus sa bicyclette. Et dans son rapport annuel publié lundi, hier, la vérificatrice générale de Montréal émet plusieurs préoccupations sur la gestion de l'entretien des chaussées. Environ une rue sur trois est en mauvais état ou en très mauvais état dans la métropole, selon une compilation des plus récentes auscultations des réseaux artériels et locales. L'état de la chaussée est mesuré grâce à l'indice PCU, Pavement Condition Index. Une note sur 100 est attribuée à chaque tronçon à partir d'une analyse visuelle. Les routes jonchées de trous par des rues locales ou artères en mauvais état. Donc, on propose le palmarès et c'est Ville-Marie, la grande gagnante, celle qui a le plus de trous, 47 % dans le quartier Ville-Marie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, suivi par le plateau Mont-Royal, 46 % des rues locales ou artères sont en mauvais état. Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, 46, Rosemont-la-Petite-Patrie, 45 % comme à Antique-Quartier-Ville, qui, donc, elle... lui, l'arrondissement détient 43 % donc des rues locales ou artères en mauvais état. Et ça se poursuit, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, le Sud-Ouest, Outremont avec 36 % Anjou occupe le haut du pavé. En fait, Anjou brille jusqu'à un certain point avec 19 %. Donc, c'est la part des rues locales ou artères en mauvais état. Les totaux sont une moyenne pondérée selon la proportion des types de rues auscultées. Donc, c'est le titre principal de la Presse Plus d'aujourd'hui. Et on parle de rues aussi à la une du Journal de Montréal. Sa vigilance fait fermer la 40. C'est lui qui a trouvé la caverne, entre guillemets, sous l'autoroute. C'est sûr que ça a sauvé des vies, confie Alex Franqueur, qui a fait dévier la circulation en découvrant, avec des collègues, l'énorme trou dans la chaussée qui a des répercussions sur des milliers d'automobilistes depuis samedi soir. L'homme travaille pour une entreprise qui fauche le foin sur le bord des autoroutes pour le compte du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Lui et deux autres collègues travaillaient en bordure de l'autoroute 40 en direction ouest samedi lorsqu'ils ont remarqué la présence d'un trou sur la chaussée entre les municipalités de Berthierville et de Lanoraie. « Quand j'ai débarqué, j'ai vu que ce n'était pas rien qu'un petit trou », raconte-t-il. Ça avait l'air d'une caverne en dessous de la 40. M. Franqueur, dont la camionnette pouvait faire de la signalisation, a immédiatement fait dévier le trafic de l'autre, dans l'autre voie avant de se rendre compte que celle-ci n'était pas plus sécuritaire. Depuis samedi, des internautes n'ont pas manqué de le remercier pour sa vigilance et sa gestion de la situation. Cette entrave durera plusieurs semaines, selon ce qu'a indiqué le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ce qui mettra à rude épreuve la patience de nombreux automobilistes qui empruntent l'autoroute 40 chaque jour. Et à la une du Devoir, c'est Gilbert Rozon qui est encadré, selon la photo. C'est une photo de Valériane Mazzato particulièrement réussie. Après une pause estivale, le procès civil du fondateur de Juste pour rire entre dans sa dernière ligne droite cette semaine, avant la fin des témoignages d'ici vendredi. La prochaine étape sera celle des plaidoiries qui sont prévues à la fin du mois de septembre. Aussi à la une du Devoir, crise du logement, des artistes s'inquiètent pour leurs ateliers. Un des derniers pôles d'ateliers d'artistes à proximité du centre-ville de Montréal se sent menacé sous la pression de la crise de l'habitation. deux anciens bâtiments industriels de la rue Parthenay dans le quartier Centre-Sud logent plus de 250 ateliers d'artistes, mais deux projets, dont un de 153 logements sociaux destinés à de nouveaux arrivants, soulèvent l'inquiétude dans ce secteur convoité par des promoteurs immobiliers. On craint qu'une brèche vienne de s'ouvrir dans la vocation artistique du secteur, dit en soupirant Emmanuel Laflamme, qui a son atelier au Chat des artistes, un ex-bâtiment industriel converti en locaux artistiques. Ça clique, Éric Kerr informé des dépassements de coûts dès 2020. Et est-ce possible de trop courir? De plus en plus d'athlètes québécois s'aventurent dans des courses pouvant durer plusieurs jours. Mais quel risque ces marathons d'ultra-distance représentent-ils pour la santé? Et il y a le cardiologue sportif François Simard qui rappelle qu'il est risqué de s'élancer dans un ultra sans préparation adéquate quand on fait des activités ou des épreuves sur une longue durée, par exemple d'ultra-trail. Ça s'en vient à Tremblant à la fin de septembre. Ou un Ironman, même des marathons. Il a été assez bien décrit qu'il y a des changements aigus au niveau cardiaque seulement sur quelques heures après l'épreuve. Ces effets sont transitoires et ne laissent pas de séquelles, précise-t-il. Alors, l'ultra-trail n'a pas lieu à la fin septembre, mais bien du 14 au 16 août.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes de reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
Charles Aznavour, bien sûr, et sa chanson « Emmenez-moi ».
Oui, « Emmenez-moi », emmenez-nous, cher André, d'abord en Gaspésie.
Oui, aux portes de la Gaspésie, à Métis-sur-Mer.
Pas aux portes du matin, aux portes de la Gaspésie.
Je frappe aux portes de la Gaspésie.
Oui.
Alors, à Métis-sur-Mer.
Ah, oui.
Métis-sur-Mer, on est au tout début. La Gaspésie, elle débute à Mont-Joli, officiellement.
Ah, c'est je pensais 20 que c'était minutes. À Matane.
Non,
Mont-Joli. Mont-Joli.
Dans 20 minutes passé Mont-Joli.
OK.
Village fondé par des Écossais en 1850. Ça s'appelait Petit Métis à ce moment-là. Et encore une communauté anglophone bien présente. On peut le voir là, dans le nom des rues, sur les boîtes aux lettres. On voit l'héritage.
Oui.
Alors, j'aime ça, ce coin-là. Regard infini, à l'infini sur le fleuve. Hein. C'est, on voit presque pas la rive. On la voit pas, en fait. Et les jardins réputés, les fameux jardins de Métis, fondés par Mme Elsie Rafford en 1926 et gérés aujourd'hui par les Amis des jardins de Métis. Un lieu où j'aime retourner tous les 4 ans, à peu près, je vous dirais.
Ah oui?
Oui, les jardins, on se tanne jamais de ça. Puis, pour vous donner une idée des lieux, là, pour ceux qui ne sont jamais allés, Mme Rafford a défriché certaines parties d'une forêt d'épinettes qui était complètement vierge à ce moment-là pour y installer une succession de jardins à l'anglaise. Le résultat il est tout simplement saisissant parce que vous avez ces beaux jardins dans la forêt. Elle a même réussi là, à transplanter des espèces rares comme les azalées, les pavots bleus de l'Himalaya. On voit pas ça ailleurs, pratiquement, mais les pavots bleus étaient en floraison pendant que j'étais là.
D'ailleurs,
magnifique.
C'est la une du livre Les jardins de Métis à la rencontre d'Elsie Rafford.
C'est la fleur emblématique du jardin. Véritable havre de paix, les lieux sont vraiment demeurés fidèles à l'esprit d'origine. Et c'est vraiment encore le temps d'y aller, là, parce qu'on peut voir les floraisons en cours sur la page d'accueil du site des jardins au jardindemétis.com, jardin avec un S, tout ensemble. Et il y a plusieurs plantes encore en floraison. Les sentiers, les jardins, sont ouverts à l'année, mais les jardins eux-mêmes sont en hibernation à compter du 6 octobre. Donc, c'est bon à savoir.
Mm-hmm.
Et les sentiers sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
C'est rare, ça.
Oui, c'est bien fait. Les jardins de Métis ont obtenu la cote accessible de l'organisme Kéroul. Alors, vous aurez plus de détails sur le site web jardindemétis.com dans l'onglet Info pratique sous la rubrique Accessibilité.
Quand on y va une fois, c'est vrai qu'on a le goût d'y
retourner.
Je me souviens, à l'intérieur des jardins, là, il y a des endroits pour manger, dont un pavillon où on peut manger très, très bien. Là, c'est
très,
de l'astronomie. Et c'est quand même accessible.
C'est beau. Tout à fait. Hébergement, côté hébergement, on logeait à l'auberge du Grand Fleuve, endroit magnifique situé directement sur les berges du Saint-Laurent. C'est une demeure ancestrale qui est remplie de cachets. On peut y prendre le repas du soir aussi.
Remplie de cachettes?
D'accord, oui, aussi probablement, parce que c'est une vieille maison, alors.
Il y a du cachet et des cachettes.
Du cachet et des cachettes. Et le repas du soir, c'est à la hauteur des lieux. Hein. La table est excellente. Le petit déjeuner est inclus aussi dans le prix de la chambre. Là aussi, presque tout est fait maison. Alors, c'est une bonne adresse, c'est un bon rapport qualité-prix.
Et c'est tout près des jardins.
C'est à 15 minutes de passer les jardins vers Matane,
ça se fait bien.
Ça se fait très bien. Et c'est vraiment sur la berge.
Mm-hmm.
De Métis, on a poursuivi notre séjour vers Carleton, sur mer, en passant par la route de la vallée de la Matapédia, qui longe la rivière du même nom sur une bonne partie. Carleton, c'est une petite ville située vraiment dans un lieu géographique privilégié entre la baie des Chaleurs en avant-plan puis le mont Saint-Joseph en arrière-plan. Endroit idéal pour les amateurs de nature, de plein air, de farniente aussi, tout simplement. Côté mer, on peut se promener sur le quai de la ville ou sur la longue péninsule où se trouve notamment le camping municipal, qui est très, très, très beau. Il y a un trottoir de bois qui couvre une partie de ce parcours là en bordure de la ville. L'ensemble, le quai et la fameuse bande de terre, ça forme une grande lagune où subsiste une ouverture vers la mer, là, une espèce de goulot que les Acadiens, les Gaspésiens appellent un barachois.
Ah,
vous
oui.
avez déjà entendu ce mot?
Oui, comme aux Îles-de-la-Madeleine. Oui.
C'est un mot qui est issu du basque barachoa, en fait, qui veut dire petite barre, en référence à la barre de sable qui ferme en grande partie la lagune. La plage de sable et de galets aussi est très fréquentée. On s'est baigné, comme plusieurs, lors de notre passage, et c'était très agréable, même surprenant pour une trempette en Gaspésie. C'était pas glacial,
oui, quand même
mais
chaud.
Pas du tout. Ben, un peu fraîche, ouais. Mais tout à fait,
pas glacial.
Tout à fait supportable. Alors, la baie des Chaleurs portait bien son nom. Et bien sûr, les amateurs de sport nautique ne seront pas en reste. On peut pratiquer kayak de mer, voile, plongée, on peut louer des embarcations. Mais moi, je ne suis pas très porté vers les sports nautiques. Alors, je me suis tourné vers une randonnée sur l'un des nombreux sentiers du Mont-Saint-Joseph, qui est un grand, grand parc. Ça va de niveau, je dirais, facile, intermédiaire à difficile. Il n'y a pas de randonnée très facile, mais on peut trouver des choses quand même à la portée de la plupart. Ça mène à de magnifiques points de vue, à des chutes, à des cascades. Alors, c'est vraiment de belles randonnées à faire en pleine nature. Puis, on peut aussi accéder au sommet du Mont-Saint-Joseph, où se trouve une chapelle et un petit sentier qui permet d'admirer la vue sur les environs. On peut aussi y voir planer des faucons pèlerins qui nichent à flanc de montagne. Ça aussi, c'est une belle expérience. Et soyez rassurés, vous n'êtes pas obligé d'y aller à pied. Le sommet est accessible en voiture ou par une navette au départ du centre de Carleton. Et côté restauration, le choix est grand et comprend d'excellentes tables comme le Marin d'eau douce.
Oh, juste le nom,
oui,
c'est tentant.
Déjà, on a dégusté un excellent repas sur la terrasse tout près de la mer lors d'une soirée de juillet très, très douce, très agréable.
Inhabituellement douce
pour la Gaspésie. Alors, c'était vraiment, vraiment
c'était bon.
Agréable sous tous les aspects.
Qu'est-ce que vous avez mangé?
Excellent. Je ne m'en rappelle plus.
Mais c'était bon.
Mais c'était très bon.
J'imagine des fruits de mer,
très, très
du
bon.
Poisson.
Sans doute. Parce
le marin d'eau douce.
Je me suis gavé de poissons et de fruits de mer. Et côté hébergement, on logeait au manoir Belle-Plage. C'est bon de savoir qu'il offre deux chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite et que des travaux sont planifiés pour rendre accessible la salle du petit-déjeuner. Mais entre-temps, il y a des arrangements pour accommoder les personnes en fauteuil roulant. Donc, c'est, je crois, un bon choix. Et de manière plus générale, sur le plan de l'accessibilité, la ville de Carleton s'est engagée, toujours avec Kéroul, à améliorer l'accessibilité touristique pour les personnes en situation de handicap. Et certaines mesures concrètes ont déjà été implantées, comme un tapis d'accès à la plage du Parc des Horizons et l'accès du quai municipal aux personnes à mobilité réduite.
Carleton-sur-Mer était aussi connu pour son centre de thalassothérapie.
C'est vrai, qui n'existe plus, malheureusement.
Malheureusement, c'est bien triste.
Oui.
Alors, de la Gaspésie, on s'en va maintenant dans le Bas-Saint-Laurent.
À Rimouski. On a fait ça sur le chemin du retour. Rimouski, ville universitaire vivante, accueillante, que j'aime bien, honnêtement, dans les villes de région. J'adore Rimouski. Hein, il y a une université, il y a un cégep, ça paraît. Il y a la radio. On y trouve également plusieurs bons restos. Hein. C'est d'ailleurs à Rimouski que je m'étais initié à la cuisine coréenne il y a quelques années.
Ah oui?
Ben oui, c'est curieux. Hein. Pourquoi faire ça à Rimouski? C'est pas naturel comme lien. Donc, c'est avec bonheur que je suis retourné au Parfum de Corée.
Qui existe toujours.
Toujours. Sa propriétaire, que les habitués appellent tout simplement Madame Kim, elle habite le Canada depuis une vingtaine d'années, puis elle s'est donné pour mission de partager son amour de la cuisine coréenne.
C'était bon?
C'est toujours aussi bon.
Ouais.
C'est très abordable, comme plusieurs restos asiatiques. Alors, allez-y, là, si vous aimez ce genre de cuisine avec le chou fermenté. C'est des saveurs auxquelles on est moins habitué en cuisine asiatique, mais qui sont à découvrir.
Parfum de Corée à
Parfum
Rimouski.
Parfum de Corée. Et c'est aussi à Rimouski qu'on retrouve le seul étoilé Michelin hors de Montréal et de Québec, qui est le Narval. Mm-hmm.
Est-ce que vous l'avez essayé?
Non, parce que c'était déjà plein jusqu'en septembre, octobre. Alors peut-être que les gens qui iront à l'automne auront peut-être plus de chance, mais il faut réserver plusieurs mois à l'avance durant la belle saison, ça c'est sûr. Là.
Que le restaurant soit étoilé ou pas. Mais là, étoilé...
Mon Dieu, avant qu'il soit étoilé, je ne le sais pas, je ne le connaissais pas. Mais maintenant qu'il l'est, je peux vous dire que c'est très populaire.
Il faut faire vite.
Oui.
Alors, vous continuez donc au Parc national du Bic. C'est tellement beau, ce
ça
parc.
Aussi, c'est un endroit où j'aime retourner. C'est 20 minutes à l'ouest de Rimouski, pas très loin. Le paysage est unique pour ceux qui ne sont jamais allés. C'est vraiment des petites collines parsemées sur le long du littoral. Moi, ça me fait penser un peu à la baie de Ha Long au Vietnam. S'il y en a qui connaissent les paysages, même sans être allés,
ah,
il y a
oui.
tellement eu de photos là-dessus. En plus petit, là, parce que Ha Long, c'est surdimensionné. Mais c'est des petites collines qui émergent de la mer comme ça.
Le Bic vous a transporté au Vietnam.
Le Bic m'a transporté au Vietnam, d'autant plus qu'il faisait chaud quand je suis allé.
On peut camper aussi.
On peut camper au Bic. Il y a des petits chalets également. Plusieurs sentiers de randonnée là aussi, soit sur le littoral ou sur les collines. Certaines sections accessibles uniquement à marée basse, donc ça ajoute à l'expérience. On peut explorer des lieux à marée basse. Et on peut aussi voir, observer des phoques, là aussi à marée basse, qui viennent se faire chauffer au soleil sur les rochers.
En avez-vous
vu? Apportez vos jumelles. C'est la seule fois où j'en ai pas vu. Je ne sais pas si c'est la chaleur qui était assez intense la journée où on est allé, mais en général, c'est le cas. Donc, informez-vous sur les lieux où vous êtes le plus susceptible de les voir selon le moment de la journée. Et il y a plusieurs secteurs du parc qui ont été aussi là, aménagés pour faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap. Donc, pour plus de détails, rendez-vous au cepac.com/PQ/BIC et consultez l'onglet Information sous la rubrique Accès universel.
Mais ça fait plaisir de vous entendre parler de ces régions qui sont si belles, grandioses même.
Absolument.
Oui.
Des lieux que j'aime revoir et revoir.
À tous les 4 ans?
À peu près.
Oui. Merci, André. Vous ne reviendrez pas dans 4 ans, là.
Oh non. Dans 2 semaines.
Dans 2 semaines. À la prochaine.
Au revoir.
Merci d'écouter au quotidien À venir, une chanson de Francine Raymond et puis une rencontre avec Julie Collin, directrice artistique des Correspondances d'Eastman qui prennent leur envol le 4 septembre prochain.
Quotidien avec Hélène Denis. J'entends des enfants jouer dans la rue.
Francine Raymond, sa chanson « Il y a les mots ».
Eh oui, il y a les mots, ça tombe sous le sens, hein, pour parler de mots, d'idées, de désirs même. Les correspondances d'Ismune, 23e édition, qui prennent leur envol le 4 septembre et ce jusqu'au 7 septembre, de jeudi à dimanche prochain, pas en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine, dans le village d'Ismune. Et pour en parler, Julie Collin, la nouvelle directrice artistique de l'événement qui est avec nous. Bonjour Julie, bienvenue. Hey,
bonjour, merci de m'accueillir.
Julie, c'est votre première édition à la direction artistique des correspondances. Comment vous avez décroché ce très beau rôle et en quoi il consiste exactement?
Bien, comment je l'ai décroché? C'est un événement que je fréquente depuis plusieurs années déjà. J'ai été aux correspondances d'Ismune en titre de festivalière, de journaliste, d'animatrice aussi. Et l'année dernière, le poste a été libre. J'ai postulé. À ma grande surprise, à mon grand bonheur, j'ai obtenu ce poste-là. Et en quoi ça consiste? En fait, c'est de réfléchir à ce qu'on veut faire avec les correspondances. L'artistique, c'est de penser à une thématique. C'est la thématique que j'ai nommée en entrevue d'embauche, d'ailleurs, « désir » au pluriel. C'est déterminer aussi comment on veut l'orienter, cette thématique-là, avec quels intervenants, intervenantes, on veut la faire vivre, la thématique. Donc, c'est de penser à tout ça. C'est que les quatre journées, j'ai réfléchi à ça, puis en même temps, je ne suis pas toute seule là-dedans. Il y a un comité de programmation aussi. Il y a des gens qui me donnent des idées au fil de l'année.
Et Julie, pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds aux correspondances d'Ismune, même si ça fait quand même 23 ans que ça existe, comment vous décririez le festival?
Le temps s'arrête. C'est complètement différent. C'est un autre espace-temps. On prend le temps de se ressourcer en entendant des cafés littéraires, en entendant des intervenants. C'est des rencontres aussi qui sont privilégiées. On peut prendre le temps. Je ne sais pas si vous fréquentez des salons du livre, par exemple. Puis moi, je n'ai rien contre les salons du livre. J'en fréquente beaucoup dans la vie, dans mes différents
rôles. Mais c'est
autre
chose ici.
Mais
là,
c'est complètement différent. Dans les salons du livre, souvent, il y a des séances de dédicace. Ça va vite. Il y a beaucoup de gens. Nous, il y a moins de gens. On peut prendre le temps. On peut jaser longuement avec les intervenants, les intervenantes qui sont présents. C'est une quarantaine, cinquantaine d'artistes qui seront présents pendant les quatre journées. Il y a autant des cafés littéraires, grosso modo, des tables rondes avec du café. Il y a des grands entretiens. Il y a le premier club de lecture des correspondances
cette année. Oui, que vous allez
animer. Ouais, ça, je suis pas peu fière d'avoir eu cette idée. En fait, que j'ai quand même eu avec quelqu'un d'autre, on va le nommer, c'est Félix Morin. Donc, les deux ensemble, on discutait du fait que je lance un club de lecture de correspondance dans un autre emploi que j'occupe, à la librairie La Liberté. Et là, on s'est dit, bien, pourquoi on ne ferait pas un club de lecture aux correspondances? Et à ma grande surprise, en faisant des recherches, en parlant avec mes prédécesseurs, ça ne s'est jamais fait avant. Ça allait de soi pourtant, mais ça ne s'était jamais fait. Je suis très contente.
Fallait que Julie Collin arrive.
Ben oui, puis que j'en discute avec Félix Morin, puis qu'on se dise, bien oui, c'est facile à faire cette année, allons-y.
T'sais. On y reviendra à ce club de lecture parce que c'est vraiment une belle idée. Ouais. Et vous avez choisi, vous en avez parlé au début de l'entrevue, le thème désir, même en rencontre d'embauche, là, vous aviez parlé de désir. Pour guider cette 23e édition, donc c'est le thème désir qui est là. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce mot-là?
C'est un thème récurrent dans mes lectures de cette période-là. Je sentais que c'était très présent parce que c'est ça aussi de choisir un thème, je crois, c'est de voir ce qui se passe dans la société en général, soit dans les livres, soit dans les sujets de conversation des gens. Il y avait beaucoup de livres par hasard que je lisais où il était question de désir. Je me suis dit, oh, OK, il y a quelque chose là. Tu sais, puis c'est quoi le désir? Mm-hmm. Mais là, c'est beaucoup plus que ce que les gens pensent en premier, qui est le désir charnel. C'est la première chose à laquelle les gens pensent. C'est normal, mais c'est pas
associé
que ça.
Associé à la sexualité.
Absolument,
à l'amour,
absolument. Ouais. C'est la première chose que les gens pensent. Mais pour moi, puis selon mes recherches, selon ce que j'ai lu aussi, le désir, c'est ce qui nous fait vibrer. c'est ce pourquoi on vit. Puis ça peut prendre toutes sortes
moteur.
De... Mais c'est un moteur, tout à fait. Et ça peut prendre différentes formes. Moi, je me rendais compte qu'il y avait la recherche des origines, le désir de connaître ses origines avec Rebecca McConnell, par exemple, qui a fait paraître un livre extraordinaire il y a quelques mois. Je me dis, OK, il y a ça. Puis en même temps, dans Nuit des ordres, qui est le livre du club de lecture, il est question de désir et de non-désir ou de transformation du désir chez des femmes dans la cinquantaine.
Oh. Extrêmement riche comme thème,
oui,
finalement.
Oui, c'est ça. C'est que là, je me disais, OK, il y a plein de désirs un petit peu partout comme ça. Il y avait aussi avec Claire Legendre qui était question de désir.
Désir plus charnel ici. Hein?
Bien, désir extrêmement varié, Claire Legendre, parce qu'il y a à la fois ça, mais il y a aussi le désir de plaire à ses étudiants quand elle débute une session. Ça peut être plein de choses comme ça. Elle, son livre, c'est « Ce désir me point » qui est paru chez Le Méac. Donc, il y avait différents livres qui parlaient de désir. Je sentais que c'était dans l'air du temps. Et quand j'ai eu mon entrevue d'embauche en décembre, parce que je suis entrée en poste en mars, mais moi, je sais depuis décembre que j'ai l'emploi. Quand j'ai eu l'entrevue d'embauche, j'avais esquissé sur un bout de papier juste avant l'entrevue en me disant hey, « si, mettons, ils me le demandent, je vais leur dire « désir », puis avec deux, trois noms comme ça de personnes que je viens de lire. » Et finalement, ça a été choisi. J'ai été choisie et le thème a été choisi. Wow!
Le thème a été choisi et les invités qui vont faire partie des correspondances de cette année sont aussi choisis en fonction du thème?
Oui, absolument, absolument. Il y a toujours un lien. Des fois, il est un peu plus fin. Des fois, il est un peu plus évident. Là. Ça mm-hmm. dépend des gens. Mais oui, c'est toujours réfléchi comme ça parce qu'on veut avoir une cohérence dans la thématique. Puis on veut aussi que les gens, quand ils achètent un billet passeport, qui est un billet qui donne accès à toutes les activités. Il y a aussi des billets à l'unité, mais quand les gens achètent un billet passeport, on veut que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent aussi. Si désir, ça leur parle, ben voilà, vous allez avoir plein de nuances de désir.
Et la programmation, donc, est particulièrement foisonnante. Ouais. Café littéraire, spectacle, performance, des ateliers d'écriture, mm-hmm. club de lecture, on y reviendra, comme je l'ai dit tantôt. Plusieurs grandes entrevues.
Ouais.
Alors, qui vous avez convoqué?
Mélissa Mollen-Dupuis, qui va parler de désirer l'humain. De désirer la rencontre avec l'autre humain. Ça va être super intéressant, évidemment.
Sortir de ses écrans.
Bien, entre autres, et aussi de retourner à quelque chose d'un peu plus naturel comme rencontre aussi, un peu plus vrai, d'être dans l'authenticité. Donc, on va parler de ça avec elle. Il va y avoir Rebecca McConnell par rapport au désir de connaître ses origines. Il y a Perrine Leblanc aussi qui va nous parler du désir de se consacrer à l'écriture. Perrine Leblanc a pris des décisions qui pourrait être assez difficile à prendre quand même. Elle a pris des décisions de vivre un peu plus pauvrement en termes d'argent, mm-hmm. mais en même temps plus richement en pouvant se consacrer à son écriture à 100%. Donc elle ne fait que ça, créer, écrire, créer aussi beaucoup avec la laine. Elle fait plein de choses avec de ses mains. Mais c'est ça, sa vie maintenant. Elle s'est aussi exilée en Gaspésie pour se consacrer encore plus à l'écriture. Donc, on va discuter de ça avec elle. Il y en a d'autres, là. Il y a aussi le désir par rapport au temps, par rapport à la spiritualité avec Hélène Dorion, qui est très connectée avec la nature. Oui, c'est que ça va être...
Des entrevues et des cafés littéraires.
Ouais.
C'est quoi exactement un café littéraire? On prend du café puis on parle littérature?
Oui, bien, en fait, un café littéraire, c'est un peu comme une table ronde. Trois intervenants... intervenante avec un animateur ou une animatrice. Et oui, il y a du café, parce que ça porte bien son
bon,
nom,
c'est important. Bon, j'espère
bien. Bien, j'espère bien, moi aussi.
C'est important.
Oui, oui, c'est pas moi qui l'achète, mais j'ai de grandes attentes, je vous avoue.
spectacle littéraire aussi?
Oui, 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 ça va être très intéressant aussi. Programmation assez variée en termes de spectacle. Le vendredi soir, c'est un cabaret de littérature érotique. Il y a des auteurs, autrices de l'Estrie, parce que c'est la journée estrienne le vendredi, donc c'est des gens de l'Estrie qui vont lire des extraits, soit de livres qu'ils ont déjà fait paraître, ou des textes qu'ils vont écrire pour ce cabaret-là. Donc, cabaret, ça, c'est un spectacle quand même assez simple dans sa composition, mais avec des gens qui vont intervenir une fois de temps en temps au micro. Mm-hmm. Ça risque d'être très intéressant. Puis la littérature érotique, ça peut être à la fois très passionnel, mais ça peut être aussi très politique, très humoristique. J'ai hâte de voir les propositions. Je ne suis pas au courant de la teneur des textes. C'est pas moi qui gère ce côté-là. C'est que je suis vraiment contente. J'ai confié le dossier à quelqu'un d'autre. Donc, je vais savourer moi aussi ce moment-là.
Mais oui, ça maintient le désir.
Ben oui, ça maintient le désir, certainement. Le samedi, ce sera inspiré d'une lecture, en fait, d'un livre, d'une correspondance entre Paul-Émile Bordua et Rachel Laforêt. Une correspondance secrète.
Ah, oui.
Assez passionnelle aussi. Donc, un spectacle d'environ 40 minutes qui sera suivi d'une courte rencontre que j'animerai pour parler justement de ce livre-là, du processus de création, de sélection aussi de ces lettres-là pour en faire une mise en lecture avec trois personnes sur scène. Il y aura Jean-François Casabonne, Pascal Bussière et Stéphane Koch qui, lui, va s'occuper du volet musical de ce spectacle-là. Et le dimanche, on aura le triptyque encabané qui est inspiré... en fait, c'est des extraits qui sont inspirés des trois livres de Gabriel Filto-Shiba. Donc, un triptyque qui est encabané, en fait.
Ouais. Donc, ça promet. Le spectacle bénéfice aussi, j'ai lu « Ne tuons pas l'espoir du monde », ça me semble un événement. Ça.
Oui, oui, oui. En fait, il y aura deux spectacles bénéfices. Ce sera plus tard, par contre, tantôt, on disait en début d'entretien, du 4 au 7. Oui. Dans ce cas-là, c'est la dernière fin de semaine du mois de septembre.
Ah oui, dans le cadre des Journées de la culture.
Dans le cadre des Journées de la culture, on fait deux spectacles bénéfices. Les Correspondances des semaines, c'est un tout petit organisme communautaire. On est deux employés. Moi, je suis pas à temps plein. Donc, c'est une toute petite équipe. On a besoin d'aide de la communauté. Donc, avec l'aide de Robert Lalonde et de Art Culture Massawippi.
L'auteur, Robert Lalonde?
Oui, oui, absolument. Robert Lalonde, qui est auteur et comédien. Donc, on fait deux spectacles bénéfices qui seront présentés les 27 et 28 septembre à 16h. Donc, oui, il y aura l'incroyable Virginia Woolf, qui sera une grande première. Et il y aura aussi Ne tuons pas l'espoir du monde, qui est un antidote à la déprime et à l'angoisse actuelle. Oui. C'est que ça va me faire du bien, je pense. Ça va faire du bien à tout le monde.
30 personnes sur scène, là, ça va être très impressionnant. On aura l'occasion d'en reparler dans le cadre des Journées de la culture.
Ben oui.
Et si on parlait de votre club de lecture, là, qu'est-ce qui va se passer exactement? Vous avez choisi un livre, vous l'avez nommé tantôt.
Oui, c'est « Nuit des ordres » de Stéphanie Fillon et Isabelle Descaries.
Qu'est-ce que c'est, ce livre-là?
C'est deux femmes dans la cinquantaine qui parlent... En fait, c'est des amies de longue date, d'une vingtaine d'années, qui ont déjà écrit un livre de correspondance ensemble et qui, là, reviennent, avec ce livre-là, parler de désir et de non-désir et de transformation du désir. Du désir qui, dans la vingtaine, n'était pas nécessairement le même que dans la cinquantaine. Mm-hmm. Par exemple, il y a Isabelle qui, maintenant, habite au Brésil depuis plusieurs années et qui décide d'ouvrir son couple avec son conjoint et d'aller rencontrer de jeunes hommes pour assouvir ses désirs. Donc, ça peut être assez OK. On est voyeur un peu, on lit ça. Ça peut nous... C'est ça, c'est un peu particulier des fois à lire où on se dit OK, elle va jusque-là, tu sais, puis parfait. Fait que pour nous, ça va être riche en discussion. Il y a Stéphanie, de son côté, qui, son désir est très présent dans la vingtaine, dans la trentaine, rendu dans la cinquantaine, c'est mué à un désir de création. Donc, c'est très différent. Elle est moins dans son corps, elle est plus dans la création. Mais encore une fois, on est très voyeur en lisant ça. J'ai hâte de discuter avec les gens.
L'avez-vous lu?
Ben oui, je l'ai lu.
Ouais.
Absolument. Je ne parlerai pas d'un livre.
Non, je sais, mais vous auriez pu le lire, je ne sais pas, moi, ce soir ou demain.
Non, je l'ai sélectionné avec soin. C'est un livre que j'ai lu à sa sortie. J'ai déjà eu la chance de faire un entretien avec les autrices l'année dernière. Et là, on va en discuter en groupe. L'idéal, c'est que les gens aient lu le livre avant. Évidemment, ça enrichit les discussions. Mais si les gens ne l'ont pas complété, c'est pas grave. On va partir avec ce qu'on a, tout simplement. On va construire la rencontre ensemble avec les gens qui vont être présents. C'est une activité qui est gratuite, ouverte à tous et à toutes, et sans inscription.
Que ça soit on peut arriver puis se joindre au groupe. Ça se passe quand? Le matin, l'après-midi?
C'est l'après-midi. C'est le jeudi 4 septembre de 13h à 15h. Aux Correspondances des semaines, ça sera au Théâtre La Marjolaine dans ce cas-là. Et c'est vraiment gratuit, ouvert à tous, très libre. Moi, je voulais pas que ça soit compliqué. Je voulais que les gens puissent se dire « Hey, j'ai ma place », tout simplement.
Est-ce que les deux autrices seront présentes?
Elles ne sont pas présentes lors du club de lecture, mais seront présentes plus tard dans les Correspondances des semaines.
Ah, d'accord.
Donc, alors, il sera possible de les rencontrer par la suite.
Pour participer au club de lecture, on n'a pas besoin de s'inscrire et c'est gratuit. Comment ça fonctionne là, quand on veut aller aux Correspondances? Vous avez parlé de passeport ou de billet à l'unité.
Oui, c'est très variable d'activité en activité. Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet lescorrespondances.ca. Vous allez avoir vraiment tous les détails activité par activité. Grosso modo, il y a des activités qui ont des tarifs à l'unité qu'on peut acheter. Par exemple, les cafés littéraires, les spectacles. Le soir, on peut acheter des billets à l'unité pour ça. Il y a des activités aussi qui sont gratuites, comme les ateliers d'écriture, par exemple, le club de lecture. Il y a un lancement de livre aussi. Il y a Michel Plomer qui fait paraître un nouveau livre.
Ah oui, vous allez animer d'ailleurs une rencontre entre Robert Lalonde et Michel Plomer.
Oui, c'est ça. Je vais animer une rencontre. Je dois préciser, par contre, que Robert Lalonde a un petit changement. Ah. Il ne sera pas présent, finalement, au lancement de ce livre livre-là.
Son livre à lui, ouais, Imagination que donnent les vraies tendresses.
Oui, c'est ça. Il a dû se désister, malheureusement, là, pour des raisons personnelles. Mais avec Michel Plomer, on va maintenir cette activité.
Ah, il y a de quoi à faire et à dire avec Michel Plomer.
C'est sûr.
Quel passionné.
C'est sûr. On adore Michel Plomer, puis on est très content de pouvoir lancer ce livre-là. C'est un livre qui parle d'Eastman, qui parle, oui, des gens d'Eastman.
Une estrienne,
c'est une
Michel
estrienne,
Plomer.
Michel Plomer, et c'est aussi les gens d'Eastman qui l'ont aidé à se reconstruire suite à un accident, ouais, qui était très grave.
Elle
et donc,
elle
s'est
sa peau.
Vraiment bien sortie. Michel est en pleine forme, mm-hmm, elle rayonne, vraiment, ça va être super intéressant. Mais ça pour dire qu'il y a des tarifs qui sont variables, et il y a aussi la possibilité de s'acheter un passeport qui donne accès à toutes les activités, tout simplement.
En allant sur votre site?
Oui, c'est ça. Sur notre site, on a vraiment tous les détails, autant pour l'achat du passeport qui comprend tout, mais aussi pour l'achat à l'unité, ou si c'est inscrit aussi que c'est gratuit, tout ça. Tous les détails sont inscrits pour chacune des activités.
Et Julie Collin, en tant que nouvelle directrice, ouais, artistique, quelle vision vous souhaitez insuffler au festival à court, à moyen, à long terme?
Pour moi, l'accessibilité, c'est super important. C'est entre autres pour ça qu'il y a des activités gratuites et simples cette année. Ça ne sera pas toujours possible que ça soit gratuit et aussi simple. C'est tout à fait normal. Ça en prend pour toutes les bourses aussi. Il faut que nous, comme organisme, ça soit viable également. Mais pour moi, c'est important que ça soit accessible. Puis j'ai vraiment envie que les gens se disent « les correspondances, c'est pour moi ». Je veux pas que les gens se disent « Ah non, moi, je suis pas assez littéraire pour aller aux correspondances.
Je lis jamais.
Je connais pas assez. » Non, tu lis pas, c'est pas grave. En fait, moi, ce qui est important pour moi, je pense, ce qui est vraiment une priorité pour les... Je pense que ça prend pour pouvoir participer aux correspondances d'Eastman, c'est de l'ouverture puis de la curiosité. Le reste, là, c'est pas nécessaire. Ça va se développer, ça va se développer tout simplement. Faites-vous confiance, faites-nous confiance, venez nous visiter. Eastman, c'est super beau en plus.
Ah oui.
C'est un super beau village.
Et les correspondances, est-ce que ça existe encore? Est-ce que les gens peuvent se correspondre,
ouais,
écrire des lettres?
Ben oui, c'est sûr qu'au fil des années, les choses ont changé. Il fut une époque... complètement révolu, là, malheureusement, où il était possible d'envoyer des lettres partout dans le monde, gratuitement. Oui, il y avait une entente à l'époque. Ça n'existe plus. Maintenant, ce qu'on
dommage
fait... Dommage. Ben, je le sais, mais c'est ça. C'est une entente avec Post Canada, puis les temps ont changé, puis c'est correct.
Mais, je sais pas.
Ben non, mais dans le sens qu'on vit avec, puis
on... n'a pas le choix. On avance.
Ben c'est ça, on avance.
On recule, puis on avance.
C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? C'est que les gens peuvent aller écrire des lettres. On a un espace qui est dédié à ça dans le parc du temps qui passe à Eastman, où les gens peuvent prendre le temps d'écrire une lettre. Ça peut être d'écrire une lettre soit à quelqu'un d'Eastman, ça pourrait être d'écrire une lettre à quelqu'un à qui on a envie d'écrire une lettre, tout simplement, c'est de prendre le temps de se poser, d'écrire à la main. C'est un exercice qui est très différent, qu'on ne fait pas souvent. Moi, je suis une personne qui correspond. C'est rare.
Ouais.
Ouais, moi, j'aime ça, la correspondance, mais c'est quand même plutôt rare maintenant. Nous, on veut raviver ça, c'est sûr, avec les correspondances Eastman.
Est-ce que vous fournissez le papier,
ben
le
oui,
stylo?
Ben ouais, oui, évidemment. On ne fournit pas les
c'est
thèmes,
pas une question posée.
Non, c'est ça, mais on ne fournit pas les thèmes, malheureusement. Là, ça, j'aimerais vraiment ça, mais en tout cas, on ne peut pas faire ça pour l'instant.
Mais là, comment
correct
ça fonctionne? On s'installe, puis on écrit?
Ben oui, on s'installe, on écrit, tout simplement. Il y a une personne qui est bénévole qui va vous donner papier, crayon, enveloppe pour vous accompagner dans votre démarche.
Ouais.
Ben oui, on prend le temps, tout simplement. Sinon, on a aussi le concours de l'interlettre, qui est un concours où on récompense des lettres. Donc, cette année, c'est Désir, la thématique.
Ça veut dire que vous lisez les lettres que les gens envoient?
Oui, pour ce concours-là, oui, les gens soumettent une lettre qui peut être fictive ou réelle. Là. Et c'est vraiment très simple. Le concours, c'est jusqu'au 1er septembre qu'on peut s'inscrire. Tous les détails sont sur le site Internet aussi.
L'adresse du site Internet?
C'est lescorrespondances.ca.
Tout à fait, correspondances.ca. Et vous en avez parlé tantôt de la journée estrienne du 5 septembre. Il y a des activités ancrées dans le village. Pourquoi c'est important de nourrir ce lien entre le territoire, la culture, la littérature?
Bien, je crois que c'est important d'être dans le village aussi, parce que les gens, en fait, ont envie que ça vibre partout. Les gens désirent avoir les correspondances dans les lieux qu'ils fréquentent à l'année aussi. Donc, c'est sûr que pour nous, ça allait de soi de faire des événements, oui, au Théâtre La Marjolaine, qui est un peu notre QG. Là, c'est notre endroit principal, mais après ça, il y a différents autres endroits qu'on va fréquenter. Il y a le Café La Station, par exemple. Il y a différents endroits, le restaurant ODAC. C'est vraiment super important que les gens développent un lien aussi, des fois, avec des commerces qu'ils ne connaissent pas, que ça soit ou c'est quelque chose qui peut apporter aux commerces locaux. En tout cas, pour nous, c'est une synergie qu'on veut vraiment développer. En fait, c'est pas mon arrivée qui amène les activités au cœur du village. C'est quelque chose quand même qui existe depuis un certain temps déjà, puis c'est quelque chose que je tiens à maintenir.
Alors, c'est pas le village que vous habitez. Vous disiez tantôt que vous travaillez à la librairie La Liberté. C'est à Québec?
C'est à Québec, tout à fait.
Donc, c'est quand même une bonne distance, là.
Absolument, mais avec les technologies de nos jours, c'est possible de travailler à distance.
Télétravail.
Absolument, je vais à Eastman quelques fois par année. Seulement,
c'est pas nécessaire.
Absolument, absolument. Ouais. Je vais être là, évidemment, pour les correspondances. Je vais être là pour les événements bénéfices pendant les Journées de la culture. Je suis allée en août. Donc, je vais y aller à différents moments comme ça dans l'année, mais c'est pas nécessaire que j'habite là tout le temps. À la grande question, Julie, est-ce que tu vas déménager un jour en Estrie? Peut-être.
Qui sait?
C'est pas un prérequis pour mon emploi. C'est pas quelque chose qu'on m'a demandé. C'est pas quelque chose que j'ai dit non plus comme engagement en entrevue d'embauche.
C'est pas quelque chose que vous désirez pour l'instant.
C'est pas quelque chose. Ben, c'est quelque chose que je désire, mais c'est pas quelque chose que je peux concrétiser pour l'instant.
Bon, ça viendra peut-être à suivre. Et en terminant, Julie Collin, la littérature, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie?
On a combien de temps?
En deux phrases. Mathieu vient de monter 3 minutes.
Mais ça m'apporte énormément. Moi, je suis vraiment une personne qu'on considère comme une grande lectrice. Moi, je trouve que je lis pas tant que ça parce qu'il m'en reste tellement à lire.
On n'a pas assez d'une vie.
Moi, quand j'étais enfant, quand j'ai compris que je lirais pas tout, ça a été un gros deuil.
Ah, oui.
Mais vraiment un gros deuil profond, une grosse peine d'enfant qui m'habite
encore. Mais c'est
peut-être
ça qui nourrit le désir aussi, le fait qu'on peut pas, on peut pas tout embrasser.
C'est ça, je peux pas satisfaire ma passion pour la littérature. En même temps, je suis aux correspondances d'Eastman, je suis libraire, j'anime une émission aussi de radio à haute teneur en littérature, 2 heures par semaine.
Donc, c'est quoi le titre déjà de votre émission?
Julie Lioli. Oui, puis récemment, le 12 août, moi j'ai animé une émission qui durait 13h20 parce que je suis comme ça. Donc, la littérature,
j'achète un livre québécois. Ouais.
Oui, c'est ça. Donc, la littérature, pour moi, c'est super important. C'est total.
Bien, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer en personne, Julie Collin. Et je vous souhaite de belles correspondances des semaines. On rappelle que ça se déroule du 4 au 7 septembre et aussi dans le cadre des Journées de la culture. Merci, Julie.
Merci.
Merci d'écouter au quotidien. C'est Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11h à venir. Après la chanson de 10h30, on vous propose Vanessa Paradis, peut-être du Marvin Gaye, qui sait, si vous êtes gentil. Et il y a La part de l'océan, c'est le titre du livre de Dominique Fortier, publié aux éditions Alto, qu'a lu pour nous notre chroniqueuse livre Anne-Marie Aubin. Elle va nous faire part de ses émotions, ses impressions, ce qu'elle en a pensé, quoi. Restez avec nous.
Vous écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
des choses comme une overdose. Baissez le bouquet final, baissez le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps, mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte épicée, l'encre bleue me dit que tu n'aimes que moi. Le rouge et le rouge sang, couleur des amants, mais c'est le bouquet final. C'est toujours bien de finir en beauté. Y'a le nom à perdre, ruban satiné. Sans vouloir jeter de fleurs, y'a mes sentiments dont j'aimais t'aimer. Et mon envie de te serrer, serrer. Tout y aimait plus le cœur. T'aimerais changer les choses comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs, ne triche pas. Je t'envoie sur les roses que t'as déposées chez moi. Chez moi, chez moi. C'est toujours bien de finir en beauté. Tu ne fais pas les choses à moitié. Sans vouloir jeter des fleurs, y'a comme une envie de te pardonner. De me faire pour toi belle à crever. Tout y aimait plus le cœur.
Bouquet final de Vanessa Paradis.
Merci. La part de l'océan, quel beau titre. C'est le plus récent livre, je crois bien, de Dominique Fortier, qui est paru en 2024 aux éditions Alto. Pour en parler, Anne-Marie Aubin, que je retrouve avec plaisir. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Alors, est-ce que c'est son plus récent ouvrage?
Oui, elle avait fait en même temps Notre-Dame de je ne sais pas quoi, un autre petit recueil de poésie.
Notre-Dame de je ne sais pas quoi?
Non, ça ne s'appelle pas comme ça. C'est Notre-Dame de...
On va trouver le titre.
Je ne me souviens plus qu'il fallait lire, qu'on demandait de lire en même temps que ce livre-là, mais je ne l'ai pas. Notre-Dame de tous les peut-être.
C'est ça, ah, le bon, d'accord. De je ne sais pas quoi. Vous étiez proche.
Et c'est un petit recueil de poésie qui est toujours en lien avec sa démarche qui a mené à ce roman « La part de l'océan ». En fait, il faut savoir qu'elle est traductrice, Dominique Fortier, et qu'elle a souvent accès comme ça à des documents qu'elle doit traduire. Puis elle est tombée, peut-être par hasard, je ne sais trop, sur la correspondance entre Herman Melville et Nathaniel Horton, surtout les lettres de Melville, parce que celles de Horton n'ont pas été conservées. Ce sont des auteurs américains du 19e siècle. Et c'est sa période. Elle a beaucoup aimé Emily Dickinson, tout ce qui s'appelle finalement la période victorienne. Et puis, bon, ben devant c'est une lettre qu'elle a trouvée, qu'elle trouvait particulièrement passionnée, ben, elle s'est mise à faire de la recherche, à trouver des documents pour combler peut-être un vide autour de cette relation-là. Et elle n'a pas pu tout trouver, donc elle a dû inventer. Et c'est ça, le roman, l'essentiel du roman, La part de l'océan. Alors, ça se passe donc autour des années 1850. Et puis là, à ce moment-là, Melville, qui a 15 ans de plus que Nathaniel Horton, est en train d'écrire Moby Dick. Et lui vient de faire paraître, je crois, La lettre écarlate en 1851 ou 50. Donc, ces deux personnes-là vont se rencontrer un certain hasard lors d'une randonnée en montagne. Ils ne sont pas seuls, il y a d'autres gens. Et à un moment donné, il va y avoir une tempête terrible. Et là, ils vont devoir se réfugier dans une grotte. Et parmi les randonneurs, il y a un médecin qui a amené dans sa trousse des bonnes bouteilles encore fraîches. Alors, ils se mettent à boire un petit peu. Et à un moment donné, il y a trois espèces de verres là, qui circulent entre eux. Et Melville va boire dans le même verre que Hawthorne. Et je cite, il dit, il va boire tout de suite après Hawthorne, à même l'empreinte de ses lèvres. Alors, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose de sensuel qui se passe entre les deux. Là, la tempête arrive et à un moment donné, la foudre, finalement, est là. Alors, je cite, « À un moment, la foudre a frappé si proche que le grondement a retenti au même moment et qu'ils ont tous sursauté en sentant le goût métallique sur leurs dents, si proche que Melville ne peut pas jurer qu'elle ne l'a pas touché. » Donc, le coup de foudre amoureux, la métaphore ici, on sent que cet homme-là va être son inspiration, le souffle qui va l'habiter. Ils vont avoir une relation où lui est très insistant, Melville, contrairement peut-être à l'autre dont on sait peu de choses puisqu'on n'a pas sa correspondance, mais il a l'air plus mystérieux, plus discret. Et puis finalement, ce qu'il veut finalement, c'est être l'ami de cet homme-là, lui appartenir comme il y aurait un chien ou un chat ou je sais pas quoi, et ça sera pas nécessairement facile. Alors, elle leur invente une vie. Elle raconte à la troisième personne des échanges. Et on voit qu'ils en viennent à une certaine intimité, des rencontres en famille. Et elle réussit ça, comme elle a si bien su le faire avec Emily Dickinson. C'est la partie la plus réussie de ce roman. Il y a aussi une autre partie où, comme dans le roman Moby Dick, elle va apporter des informations sur la vie maritime, dans l'océan, les animaux, les coquillages, l'étymologie des mots. Et ça, c'est comme dans le livre d'intérêt variable. En fait, là, il y a des choses qu'on sait déjà. Il y en a d'autres qui sont intéressantes. Mais, veut pas, ça ralentit le rythme. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est l'évolution de la relation entre les deux écrivains, leur famille, leur vie. C'est toute une époque, c'est tout un décor. Alors, par exemple, on va nous dire que les cachalots dorment debout, que le requiem requin vient de requiem, qui veut dire la mort. Il y a des choses intéressantes, mais certains les ont sautés. M'ont dit, y a des amis à qui j'en ai parlé qui m'ont dit, moi, j'ai carrément sauté ces aspects-là. Mais moi, ce qui m'a surpris, puis qui m'a étonné, puis que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle a décidé d'ajouter des textes écrits par l'épouse de M. Melville, qui s'appelait Elisabeth Shaw, et qui s'appelle Lizzie dans le roman. Et à certains moments, il y a des chapitres en italique, sans majuscule, sans ponctuation. C'est comme si elle écrivait son journal et on a accès à cette écriture très poétique qui révèle beaucoup de la vie de cette famille-là. Parce que c'est une femme effacée qui ne doit pas trop faire de bruit parce que monsieur écrit dans son bureau. Elle va lui porter son repas dans un plateau. Elle ne veut pas le déranger. Puis il est un peu bourru avec elle. À un moment donné, il va même la frapper et il va se demander, je cite, « A-t-il déjà aimé cette femme dont il connaît si peu de choses? » Mais jamais il n'a éprouvé pour elle, ni pour aucun autre être, pas même son fils ni son chien, quelque chose d'aussi puissant que ce qu'éveille en lui Hawthorne. C'est une subjugation où entre, outre une fascination magnétique, de la terreur et une égale part de résignation. Donc c'est un amour qu'on comprend. On comprend qu'il ne se fera pas, qu'il est un peu impossible. Et là, la vision de sa femme à ce moment-ci est très intéressante pour montrer comment la lumière n'est pas souvent mise sur les femmes à cette époque-là. Elle va dire « Qu'ai-je jamais eu qui n'appartenait qu'à moi, si ce n'est mon nom et ce secret qui brûle doucement entre mes côtes, qui flambe sans s'éteindre ni faiblir. » Ben, ce secret, c'est très intéressant, puis il faut le lire, évidemment, je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Et après, elle dit, si je devais mourir demain, que resterait-il de moi, à part mon fils, qui chaque jour m'appartient de moins en moins? Le bonheur n'est jamais là où on croit, où on pense qu'il arrive, alors qu'il est déjà en train de repartir. Alors, elle va, elle, montrer comment la vie est difficile. La maison est pleine, elle doit cuisiner, il y a de la visite, ils sont nombreux, la maison est petite, et il y a monsieur qui fait ses caprices de temps en temps. Ensuite, il y a une autre partie, la dernière. C'est un parallèle que l'autrice fait entre le roman Moby Dick et elle, comme autrice, qui se met en scène, enfin, c'est une autrice narratrice, qui échange une correspondance avec un auteur, poète, dont on sait à peu près rien. Et puis là, ben, il y a des conversations par téléphone ou à Internet ou en personne autour d'un livre à écrire. Là, on est dans une époque contemporaine, 200 ans plus tard. Et là, il est question des lieux réels. On reconnaît Montréal, on reconnaît les incendies de forêt qui se passent tout récemment. C'est raconté au jeu et sont intégrés des vers de Martine Odette, comme il y a de la poésie aussi dans Moby Dick. On comprend que c'est un exercice de style, puis qu'on comprend très bien le parallèle. Vraiment, il y a des choses qui se ressemblent, qui sont mises en commun entre les extraits. Mais moi, je n'ai pas été touchée par ces passages-là. J'ai préféré nettement les passages où il était question des écrivains, bien sûr. Et puis bon, ben, ça fait que c'est pas grave, là. Le roman vaut la peine d'être lu quand même, ne serait-ce que pour le récit de cet épisode marquant dans la vie de Melville, qui a peut-être été le moteur qui lui a permis de terminer ce roman immense qui est Moby Dick, et de son entourage, qui vivait autour de lui, puis c'était quoi la vie à ce moment-là, quand il fallait prendre le cheval et la charrette pour aller voir quelqu'un qui n'est pas si loin, mais que ça devient une expédition. Alors, quoique tout est fictif là-dedans ou presque, ben c'est quand même très intéressant. C'est très bien écrit. Dominique Fortier réussit habilement à écrire ce décor, cette vie d'un écrivain à cette époque, la passion qui le dévore, mais qui doit contenir, comme d'autres personnages aussi. Alors,
est-ce que son style littéraire s'apparente au style littéraire des auteurs dont il est question? Est-ce que ça fait très 19e siècle?
Quand eux autres écrivent des lettres, oui. Quand c'est les lettres de... Oui, on sent qu'elle a écrit comme à cette époque-là. Mais quand elle écrit avec son ami Simon, là, on est dans une écriture contemporaine. Il y a même des mots en anglais de temps en temps, des expressions. On se demande si le poète dont elle est amie, est-ce que c'est pas, par exemple, un écrivain qui écrirait en anglais, qui serait aussi comme elle traducteur? Enfin, on ne sait pas. C'est très mystérieux. C'est laissé en suspens. L'idée, c'est vraiment de faire un parallèle entre ce que c'est un écrivain aujourd'hui, peut-être, hein, puis entretenir une relation amicale et correspondre avec quelqu'un qui nous aide et qui nous inspire, et ce que c'était à l'époque de Herman Melville. Alors, et puis aussi, c'est très inspiré de Moby Dick, hein, la grosse bête qu'on essaie de contenir, ce cachalot, ben, ça peut ressembler à l'œuvre à écrire aussi, dont on n'aboutit pas, dont on ne voit pas la fin. Alors, c'est une excellente lecture. C'est juste que, bon, ben, effectivement, moi, j'ai trouvé que ça enlevait du rythme tous ces passages et cette volonté de faire comme à la manière de...
Mm-hmm. Ça vous a fait un peu décrocher. Est-ce qu'il y a d'autres livres de Dominique Fortier que vous avez lus? J'imagine que oui, Les villes de papier.
Oui, absolument. J'avais beaucoup aimé le livre qu'elle a fait, en fait, sa série sur Emily Dickinson. J'avais lu aussi d'autres romans qui avaient été finalistes au prix des collégiens quand j'étais avec mes étudiants il y a quelques années. Et c'est sa manière de faire. Elle part d'un fait réel et elle va... faire une recherche, beaucoup de recherches, et toujours en parallèle avec ce qu'elle vit à ce moment-là ou ce qui se passe présentement. Donc, il y a toujours des liens dans tout ce que j'ai lu, du moins. Alors, ça ne m'a pas étonnée, c'est sa manière de faire, c'est ça.
Alors, ça s'intitule « La part de l'océan ». C'est un livre de Dominique Fortier, publié aux éditions Alto. Merci beaucoup, Anne-Marie.
Au revoir, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ah, les fameuses chansons qui se terminent par un fondu. On en aurait pris pendant 15 minutes, je pense.
C'était ah oui.
Ouais. Marvin Gaye, Got to Give It Up.
Ambiance party, ambiance vacances, parce que certaines personnes sont toujours en vacances. On vous en souhaite des belles, des plaisantes et des reposantes. À partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 28 août, 3 soirs, le Centre du théâtre d'aujourd'hui présente la pièce « Magna Mater » de Misha Rauntenfeld, une création immersive à vivre comme un rituel. Deuxième volet de la trilogie des corps éthériques, mais chaque création est autonome. L'œuvre transforme la salle Michel Rossignol en un espace sensoriel singulier. Disposé autour de la scène, le public est convié à une expérience intime, rythmée par la musique en direct et le mouvement. Alors, on pose des questions telles « Pourquoi ai-je un corps? Pourquoi ai-je ce corps? » Habité par ces interrogations, un être entame une traversée intérieure à la recherche de ce qui le relie à sa propre chair. Son chemin le mène vers une île énigmatique, imprégnée de récits et de souvenirs oubliés. Le périple devient un passage initiatique entre révélation et métamorphose. Il y a 2 personnes sur la scène, dont Misha Rauntenfeld, qui signe aussi le texte ainsi que la mise en scène. Et à l'interprétation, à ses côtés, on trouve Razili Botz. Alors, si ça vous parle, c'est ce soir ainsi que demain et le 28 août. C'est au Centre du théâtre d'aujourd'hui, dans la plus grande salle du Centre du théâtre d'aujourd'hui, la salle Michel Rossignol. On parlait vacances. Voici toujours les vacances avec les 3 accords et Cœur de pirate, une nouveauté qui est sortie cet été.
À te regarder, de comprendre comment tu vois les choses passer. Tu insuffles une vie qui rappelle l'ennui, et à chaque moment la confusion s'ensuit. Mais quand je te vois, se dérobe mon cœur et tous mes doutes s'éclipsent. Même si je me vois compter les heures, j'aimerais que tu prennes un risque. Mais c'est toujours les vacances. Avec toi, c'est toujours les vacances. Quand on est ensemble, c'est les vacances. Quand on est ensemble, quand on est ensemble.
Un autre jour à me demander comment je faisais. À quel point tout a changé. J'ai souvenir d'une vie où tout n'était que souci, mais le chemin s'est ouvert dans les fleurs de mon tapis. Car quand ta voix enrobe mon cœur, plus rien autour n'existe. Et je voudrais que s'étire les heures, que tout reste au beau fixe.
Et c'est toujours les
toi, c'est toujours les vacances.
Quand on est ensemble,
c'est les vacances.
Quand on est ensemble,
quand on est ensemble.
Merci aux Trois Accords, ou les Trois Accords et Cœur de Pirate pour la chanson « Toujours les vacances ».
Oui, on aimerait être toujours en vacances, mais je pense qu'on finirait par s'ennuyer, hein? Je m'ennuierais de vous, moi, Mathieu.
Ah, moi aussi, je m'ennuierais de vous, mais m'ennuyer tout court, je pense pas.
Du travail, non?
Oui, oui, j'aime beaucoup ce que je fais.
Oui, ben oui, on est des passionnés. Que voulez-vous? Le regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval a dévoilé ses demandes à l'intention des futurs élus et futurs élus municipaux à l'approche des élections municipales du 2 novembre 2025. Cette plateforme, fruit d'un travail concerté avec des associations membres, vise à renforcer l'accessibilité universelle et à répondre aux besoins criants en matière de logement social adapté à Laval. Depuis 2021, des progrès ont été réalisés, mais des défis importants demeurent, notamment pour les personnes handicapées à la recherche d'un logement accessible, adapté et abordable, souligne Josée Massicotte, directrice générale intérimaire du regroupement. Trois demandes sont formulées: la formation des élus et élus municipaux sur l'accessibilité universelle, la réservation d'au moins 25 % de logements accessibles, adaptés et abordables dans tout nouveau projet de développement locatif, la réalisation prioritaire d'un portrait diagnostique des besoins en logements accessibles à Laval, incluant toutes les formes de limitations, visibles ou invisibles. Le regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval réaffirme aussi sa volonté de contribuer activement à bâtir une ville inclusive et équitable. Être élu, c'est représenter, décider et administrer au bénéfice de toutes et de tous, rappelle la directrice. Dans cet esprit, une activité spéciale en lien avec la première demande se tiendra le 21 octobre, le dévoilement complet, et les inscriptions auront lieu à la rentrée. Alors, la plateforme complète est disponible en ligne sur le site du regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval. Art maintenant, l'art de s'unir, présenté à Trois-Rivières. L'Arche Mauricie, en partenariat avec le Carrefour Trois-Rivières-Ouest, lance l'exposition « L'art de s'unir, 20 toiles, 10 artistes, une cause ». Jusqu'au 18 septembre 2025, le public peut découvrir 20 œuvres réalisées par des artistes vivant avec une déficience intellectuelle, accompagnés de l'artiste professionnelle Patricia Kramer. Pendant trois séances, Patricia Kramer a guidé les participants et les participantes dans un processus artistique ouvert et bienveillant. Ce projet nous rappelle que l'art ne connaît pas de barrières. Il est universel, rassembleur et il nous transforme tous et toutes. Artistes comme spectateurs-spectatrices, souligne Josée Lampron, qui est ambassadrice des levées de fonds de l'Arche Mauricie. Les œuvres feront l'objet d'un tirage unique dont le dévoilement aura lieu le 18 septembre à 17 h. Chaque billet acheté offrira une chance de repartir avec une toile originale tout en appuyant la mission de l'Arche. L'art de s'unir, c'est bien plus qu'une exposition. C'est un témoignage de la beauté de la rencontre et de la force de la diversité. Témoignage vibrant, il va sans dire, affirme Patricia Kramer. Le lancement se tiendra le dimanche 24 août à 10 h 30. Au Carrefour Trois-Rivières-Ouest. Alors, le lancement a eu lieu le dimanche 24 août, mais l'exposition continue jusqu'au 18 septembre. Rappelons que l'Arche Mauricie fait partie d'un mouvement international présent dans plus de 35 pays et vise à créer des milieux de vie inclusifs où des personnes avec et sans déficience intellectuelle vivent et travaillent ensemble. c'est sur cette guitare wah-wah, les Beastie Boys, que je vous dis merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Quotidien. On reprend le collier lentement mais sûrement. Alors, on se retrouve demain, 27 août. J'aurai la chance de m'entretenir avec l'acteur, metteur en scène, cinéaste Emmanuel Schwartz, qui viendra nous parler de son film L'Avenir, entre autres choses au menu. Merci Mathieu. À demain, vous et vous. Vous et vous.